composer cette chanson. Sache que j'apprécie à sa valeur le geste qui te fit bien fermer la porte en repartant, de peur que des rôdeurs n'emportassent le reste. Les voleurs comme il faut, c'est rare de ce temps. Tu ne m'as dérobé que le strict nécessaire, délaissant dédaigneux l'exécrable portrait que l'on m'avait offert à mon anniversaire. Quel bon critique d'art, mon salaud, tu ferais. Autre signe indiquant toute absence de tare, respectueux du brave travailleur, tu n'as pas cru décent de me priver de ma guitare. Solidarité sainte de l'artisanat. Pour toutes ces raisons, vois-tu, je te pardonne, sans arrière-pensée, après mûr examen. Ce que tu m'as volé, mon vieux, je te le donne. Ça pouvait pas tomber en de meilleures mains. D'ailleurs, moi qui te parle, avec mes chansonnettes, si je n'avais pas dû rencontrer le succès, j'aurais tout comme toi pu virer malhonnête. Je serais devenu ton complice, qui sait. En vendant ton butin, prends garde au marchandage. Ne va pas tout lâcher en solde aux receleurs. Tiens-leur la dragée haute en évoquant l'adage qui dit que ces gens-là sont pis que les voleurs. Fort de ce que je n'ai pas sonné les gendarmes, ne te crois pas du tout tenu de revenir. Ta moindre récidive abolirait le charme. Laisse-moi, je t'en prie, sur un bon souvenir. Monte en l'air, mon ami, que mon bien te profite, que Mercure te préserve de la prison. Et pas trop de remords, d'ailleurs, nous sommes quittes. Après tout, ne te dois-je pas une chanson? Post-scriptum, si le vol est l'art que tu préfères, ta seule vocation, ton unique talent, prends donc pignon sur rue, mets-toi dans les affaires, et tu auras les flics, même comme chaland.
Lorsque l'on a appris la disparition du regretté Michael Jackson, bah oui, un camarade de bureau qui disparaît, ça fait... Ma compagne Anne m'a dit, enfin, le marché américain est à prendre. Il s'ouvre devant toi, fonce. Pour conquérir un marché, faut être agressif, faut être un gagneur, faut être un tueur, un killer, un winner, un trader, une terreur. Moi, je suis chanteur, voyageur, rêveur, skieur, bricoleur. Que j'avais au fond de moi, comme tout bon Suisse, cette agressivité, ce désir de vaincre, qu'il avait été cultivé, qui s'était épanoui, qui s'était développé à l'époque où j'entendais « L'ennemi arrive de l'Est. Faut bien qu'il vienne de quelque part », nous dit le capitaine Bovard à la gare. J'avais mon sac et tout le reste, quelques litrons, un saucisson. On nous a mis dans des camions, et allez donc. Il nous fallait pas pétouiller. Début de la guerre était fixé à 8h pile, cela dit là. Alors voilà qu'on se retrouve sur la position. Il y avait Poget avec sa guitare, le grand Mimo, et puis Chapuis. Notre mission, garder un pont. Je m'en vais, le pays m'appelle, adieu mamie.
Radio Libertaire, il est 21h et il est l'heure de retrouver Jet des Amis d'Orwell. Voilà, des Amis d'Orwell, puisque c'est vendredi.
Bienvenue dans les Amis d'Orwell.
War is peace. Freedom is slavery.
It was the police patrol.
C'était la patrouille de police.
Snooping into people's
windows. Qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des
gens. The patrols did not matter, however.
Seul comptait.
Only the thought police mattered.
La police de la pensée.
Cette semaine, dans les Amis d'Orwell, on s'intéresse à ce qui se passe en région Auvergne-Rhône-Alpes. Un entretien avec le collectif de Saint-Étienne, halte au contrôle numérique. Imaginez une cité où les caméras de surveillance sont couplées avec des micros, 50 microphones chargés de capter tout l'environnement sonore afin de prévenir et de détecter d'éventuelles infractions. C'était l'idée délirante du maire de Saint-Étienne en 2019 et c'est comme ça que le collectif Halte au contrôle numérique s'est créé à l'époque. À Saint-Étienne, il y avait déjà environ 300 caméras installées dans la ville, des caméras qui étaient donc déjà très intelligentes, mais il ne leur manquait que les oreilles. Manque de bol, le projet a capoté. Il sera donc question dans cette émission, plus largement, de reconnaissance faciale, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes, du très droitier Laurent Wauquiez, a décidé d'investir à fond dans cette technologie, en truffant partout dans les gares de la région. Et si vous ne connaissez pas encore le statut d'objecteur du numérique, eh bien restez avec nous dans les Amis d'Orwell. Je suis avec Denis du collectif Halte au contrôle numérique, basé à Saint-Étienne. Salut Denis.
Salut.
Alors, est-ce que tu peux déjà nous faire une petite historique de votre collectif? Je crois que c'est né en 2019, après une initiative inédite de la mairie.
On s'est auto-créé en 2019. À l'époque, c'était donc pour contester le projet par la ville d'implantation dans un quartier populaire de Saint-Étienne, par la ville de Saint-Étienne, avec un maire qui est maintenant nationalement connu, Gaël Perdriau, pour espionner aussi ses adjoints.
Ah, c'est lui, Perdriau. Ok.
Voilà, c'est le même. Et donc, là, son projet, en accord avec une société d'armement qui s'appelle Vernet Caron et qui est à Saint-Étienne.
Alors, attends, Vernet Caron, c'est bien celle qui a sorti le premier flashball dans les années 90, bien ça?
Tout à fait, et qui maintenant se redéveloppe vers les armes dites de poing pour l'armée française. C'est ce qui les relance d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas très loin de la faillite. Uh-huh. Et là, ils sont en train de repartir à fond la caisse. Ils vont construire une nouvelle usine.
Ok, bon. Sûrement.
Là, à l'époque, justement, ils cherchaient un nouveau marché et ils voulaient importer en France un système de micro, de capteur micro. Mmh. À installer en plus des caméras. Il y avait même quelque chose d'assez délirant, c'est-à-dire qu'ils associaient ça aussi avec des drones qui auraient décollé dès qu'il y avait un bruit suspect et qui seraient allés vérifier sur place, mais ça, bon, ouais. Le sujet-là, ils l'ont abandonné assez vite parce que ça posait des problèmes de survol sans autorisation, etc. Mmh. Mais bon, ils ont beaucoup insisté sur les micros.
Ouais, je
donc
comprends.
Les micros étaient... Alors, pour expliquer, oui, ce système-là a été utilisé par les Américains, c'est un système américain, et a été utilisé à Bagdad et à Kaboul, pour situer. Or, Saint-Étienne n'est ni Bagdad, ni Kaboul.
Non, mais tu veux dire que c'était une arme militaire pour... Ça servait à quoi?
Tout à fait, hein. C'était un système militaire qui était... acclimaté aux civils dans la ville.
Ok. Tu peux rappeler juste le nom du projet qui est assez croustillant?
Oui, le nom Serenicity.
Serenicity, d'accord.
Donc un nom effectivement très apaisant et très moderne. City, Smart City, etc.
Ouais.
Donc voilà, c'était leur projet. Nous, on est arrivés sur l'opération. Alors, pour tout dire, il y avait eu une démarche de la quadrature du net pour obtenir, par une procédure CADA, des documents sur le projet.
Ouais, les documents administratifs autour du projet.
Voilà. Et donc, nous, on était sur place, on a pris contact avec eux, ils nous ont fait cette documentation et... On a décidé donc de contrer le projet en ayant une stratégie. Enfin, on n'était pas très nombreux au départ. Et puis, on avait peu d'armes à notre disposition. Donc, on a vu très vite qu'en fait, alors qu'ils nous disaient que le projet avait été déjà visé par la CNIL, ils n'en étaient rien, ils n'avaient pas l'intention de le faire. Et d'autre part, ils ne vous laissent surtout pas faire de réunion publique pour expliquer le projet. Donc toute notre stratégie a été de revendiquer ces deux aspects-là.
Parce qu'au départ, juste un truc, parce que je regarde dans un des communiqués que vous avez écrit, le responsable du projet, là, Serenicity, il disait qu'à partir du moment où on n'enregistre rien... et que l'émetteur du son ne peut être identifié, on peut faire ce qu'on veut. C'est
voilà,
ça
c'était ce qu'on avait repéré, parce qu'en fait, lorsque la quadrature avait obtenu le dossier, il y avait les mails, et ça nous a vachement servi, les mails qui échangeaient entre la mairie et la boîte d'armement. Oui, effectivement, on avait vu ce... culot-là de dire que s'ils étaient libres puisqu'il n'y avait aucune loi qui ne cadrait ce truc, quoi.
Donc en fait finalement ça a mis quelques mois et ça s'est dégonflé assez vite finalement, c'est ça?
Il a fallu 9 mois pour ce qu'on a fait, nous on a voulu faire le buzz, donc très vite on a fait une pétition en direction de la population qui nous a permis de rencontrer les gens, etc. Différents tracts, beaucoup d'interviews, notamment y compris la presse nationale, parce que c'était la voix, ça s'était jamais vu,
ouais,
les micros. Donc on a en quelque sorte profité de cette nouveauté, ça intéressait les médias. On a fait également une déambulation festive dans le quartier, donc avec tout Cana, tout le qui était visuellement quelque chose qui pouvait aussi intéresser les médias. Donc d'ailleurs il y a eu des relais là-dessus. Et puis on a obtenu la réunion publique qu'on a bien sûr. Il y avait des gens de notre collectif qui posaient les questions à l'intérieur de la réunion et tout. Et puis, surtout, la CNIL, à un moment, alors qu'elle ne s'était pas intéressée au projet jusque-là, s'est auto-saisie et a invité les responsables de ce projet et leur a signifié l'opposition à la mise en place du projet.
D'accord, et au passage, ça sous-entendait aussi que donc la CNIL n'avait pas du tout été informée du projet au préalable, c'est ça?
Ah bah oui, tout à fait, ils n'avaient pas été informés, mais ils auraient quand même pu s'en soucier, par eux-mêmes, mais sans le truc médiatique, je pense qu'ils ne l'auraient pas fait. Hein.
Ouais. Mais avec le recul, tu penses que c'est plutôt on va dire du lobbying de l'industriel, ou c'est aussi la mairie qui cherchait absolument un truc pour se faire remarquer et pour...
Bah, je pense que les deux. Il y avait eu de la part de la boîte une volonté de gagner un nouveau marché, parce qu'ils étaient un peu en perdition à l'époque.
Ouais, c'est vrai.
Et de la part de la mairie, de toute façon c'est une mairie qui depuis le début nous fait des coups comme ça, de sécurité à tous les niveaux, c'est un petit nif, quoi, en termes de mentalité.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est la surenchère à chaque fois avec de nouveaux systèmes. Il y a d'autres trucs qu'on a commencé à contester aussi, par exemple une base de données qui pose problème, même si on n'a pas autant de billes sur ce truc-là. Bon, et depuis, eh ben, en fait, notre collectif qui était théoriquement provisoire, en fait, on s'est dit que c'était pas mal de continuer. Et du coup, on a organisé pas mal de débats avec des intervenants variés. Bon, il y a eu la Quadrature, mais il y a aussi d'autres universitaires, etc., qu'on a fait venir. Et ça fait donc 4 ans qu'on maintient ce registre-là, à organiser des débats en direction de la population. Mmh. On mène certaines actions toujours sur un registre un peu spectaculaire.
Ouais, c'est ça.
Plutôt humoristique.
Mmh.
Et puis, là, on va engager en septembre un travail qui nous paraît important, qui est, pendant 2 jours, on réunit des gens pour essayer d'élaborer des droits nouveaux en matière, justement, de numérique, en fait, surtout.
Ah ouais, j'ai vu ça, ouais, le droit, l'objection, c'est ça,
l'objection, un statut d'objecteur du numérique.
Ah, c'est pas mal, ça. Vas-y, raconte.
Eh ben, c'est l'idée, ben, c'est-à-dire, nous, on constate que depuis, 4 ans, on fait de la résistance. Mais la résistance, ça va un moment, mais en fait, on se retrouve un peu coincé à ne suivre que les coups qui viennent. Donc l'idée, c'est de poser en préalable des droits, et des droits qui pourraient être... Alors bon, ça, c'est d'une part un travail d'écriture, mais après, il faudra qu'on diffuse ces droits-là, et de façon petit à petit à amener des droits opposables.
Mmh.
Quand dans un boulot donné, quelqu'un on lui impose d'utiliser des procédures numériques, eh bien, il peut s'en dégager en invoquant les droits qu'on aura élaborés. Alors, c'est un long travail, mais d'ailleurs, il y a une initiative un peu similaire qui est lancée en Belgique.
D'accord.
Par un groupe qui s'appelle le Code du numérique, et qui, pareillement, essaye d'élaborer un code avec des droits spécifiques face au numérique.
Ok.
Et donc je vous invite à regarder leur site. Il y a le site Code du numérique, okay, qui est également intéressant. Je rappelle le nom de notre site.
Ouais, vas-y.
Alt au contrôle numérique, tout attaché, alt avec un H, .fr. Et c'est un site sur lequel on stocke pas mal de choses.
Ouais, j'ai vu, c'est une ressource très, très intéressante. L'objection numérique, est-ce que ça comprend aussi le droit ou la possibilité d'être dans une zone blanche non couverte par les réseaux?
Est-ce que... Alors ça, je pense qu'on va l'évoquer, ouais. Parce que oui, un des aspects de notre combat, c'est aussi de défendre les gens victimes des ondes.
D'électrosensibilité, oui. Mmh.
Des ondes électromagnétiques. Et donc, je pense qu'on intégrera ça également dans notre plateforme, en quelque sorte.
Les amis d'Orwell sont au téléphone avec Denis, membre du collectif Alt au contrôle numérique de Saint-Étienne. Oui, j'ai vu quand même que vous relayez souvent des réunions d'information qu'il y a dans certains petits villages de votre région, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dès qu'il y a des projets d'implantation de caméras, honnêtement, moi, ça me rappelle un petit peu ce, tu sais, que les Amis d'Orwell, c'est en fait l'émission qui a été réservée sur Radio Libertaire à Souriez, vous êtes filmé. Et bon, si tu connais sans doute l'histoire de cet asso, c'était une des premières qui s'est battue contre les caméras, c'était dans les années 90. Et au départ, ça s'est créé à Paris autour de Monsieur Balkany, tu sais, en fait. Donc c'était aussi en réaction à cette grosse enflure qui commençait à vouloir se faire du beurre politique en mettant des caméras dans sa ville. Et il se faisait super bien voir à l'époque. Et les premières manifs contre les caméras, c'était à Levallois, en fait. Et Souriez, vous êtes filmé, est né un petit peu dans ce sillage. Donc je dirais que votre collectif, quelque part, ben, il est un peu né de la même manière. Et là, tu vas voir. Tu vas voir, une fois que tu tires le fil, effectivement, vous en êtes rendu compte, il y a plein de choses à traiter, quoi. Donc je pense que vous avez encore du boulot, quoi. Que ce soit dans la région ou.
Oui.
Tu vois?
Donc là, dans l'histoire, oui, on fait une différence entre l'implantation des caméras en ville et à la campagne.
Ouais.
Il se trouve qu'en ville, le combat n'est pas perdu, mais a besoin d'être reconstruit. Alors on cherche d'ailleurs des pistes qui passeraient par une cartographie. Là, on vient de faire une journée là-dessus. Donc le système de cartographie est très développé, notamment il y a les Belges de Technopolis Bruxelles qui font un travail remarquable là-dessus.
Mm-hmm.
Reste cependant à voir ce qu'on en fait, parce que faire une cartographie, c'est pour quel objectif? Mais bon, ça c'est un peu une voie de contestation possible en ville, alors qui sera sans doute renforcée par la contestation de la reconnaissance faciale, ce qu'on conteste nous aussi. On a fait pas mal d'articles là-dessus, sur la loi LOPMI, sur la loi JO 2024, sur la contestation des drones, etc. On va sans doute, mais on n'a pas encore totalement formalisé la chose, faire un paquet groupé de ces différentes contestations.
Mmh.
Et puis, mouvement intéressant, effectivement, c'est la contestation de l'implantation de caméras dans la campagne, dans les zones rurales, phénomène assez nouveau. Alors, assez nouveau parce que même s'il y a eu des implantations par le passé de caméras, c'est quand même à un niveau extrêmement faible. Alors que là, les mairies, poussées par l'État, puisque l'État, par la loi LOPMI, multiplié par 3 le budget du fonds qui subventionne l'implantation de cette caméra.
Oui, c'est le fonds prévention de la délinquance, c'est ça, ouais.
Oui. Bon, il y a donc une forte incitation de l'État, c'est sûr. Et puis, il y a l'arrivée de nouveaux maires dans les campagnes, qui sont des maires qui sont inspirés par le macronisme triomphant, qui sont extrêmement brutaux, qui ne font plus de négociations locales avec la population et qui imposent ces systèmes. Alors souvent, ça serait même intéressant d'analyser sociologiquement. C'est des gens qui sont poussés par un côté Front National, Rassemblement National, ou extrême droite dans son ensemble.
Décomplexé, oui.
Alors donc, on fait des interventions dans des communes. Là, on en est à 3 débats déjà organisés, 4 même. Alors, sur la base d'un film qui est pas mal, d'un documentaire qui avait été fait pour financé par MCP, qui s'appelle Fliquez-vous les uns les autres.
Fliquez-vous les uns les autres. Ah oui, exactement. J'ai vu la référence diffusée sur LCP, la chaîne de l'Assemblée nationale.
Alors, il est plus visible sur LCP, mais la Quadrature du Net en donne un lien. Je peux le donner si.
Ouais, mais je le mettrai sur le site de l'émission, t'inquiète pas. Ouais.
Ok.
Non, parce que moi aussi, je l'ai vu, effectivement, il est assez intéressant parce qu'il rentre vraiment dans les. On voit des réunions entre des élus, des entreprises,
vendeurs,
c'est ça,
matériel.
Ouais. Et en fait, tu rentres vraiment dans les discussions, quoi. Tu vois à quel point, finalement, ça dépend de pas grand-chose, quoi, pour pencher la balance.
Oui, et puis on voit toujours le même type de raisonnement. Si on met pas des caméras, c'est chez nous vont venir les délinquants. Quels délinquants, d'ailleurs?
Ouais, c'est ça.
Il faudrait se poser la question, mais eux, ça la pose pas. C'est toujours... Et puis on voit la situation, par exemple, à Nice, avec le maire de Nice qui tient un discours ultra sécuritaire avant l'attentat, ouais. Et qui après maintient le même en rajoutant des caméras supplémentaires. Mmh. Et on voit des victimes de l'attentat, des parents qui déplorent la mort de leur fille, petite fille, etc. Mmh. Ça pose très très bien les termes du débat, quoi.
Donc ce film-là étant comme une mise en bouche au débat, effectivement.
Voilà, et après, on rencontre les habitants et on fait un débat public. Et alors, bon, il faut être clair, les gens qui viennent sont plutôt en interrogation ou carrément convaincus qu'il faut lutter contre les caméras.
Ouais.
Mais c'est en soutien après à la création de collectifs locaux, on en est à 2-3 collectifs, enfin 3 même collectifs qui se sont développés avant notre arrivée, hein, puisqu'ils nous ont sollicité pour qu'on vienne. Mais disons, le débat a permis de solidifier le collectif local. Mmh. Donc ça se multiplie. Mmh. Alors, il y a d'autres coins en France. D'ailleurs, dans un des articles, on met les liens vers pas mal d'autres combats qui ont pu être menés. Il y en a eu à Dijon, il y en a dans la région, il y a Marcillac qui mène depuis longtemps un combat là-dessus. Dans la région Occitanie, vers Montpellier et environ, etc. Dans le Nord, dans l'Orne, etc. C'est très intéressant ce réveil, je trouve, de cette prise de conscience. Et c'est peut-être lié au fait que les gens qui sont dans des zones rurales, ils ont quelque chose à défendre, une forme de rapports sociaux qui sont dégagés de certaines pressions, et ils veulent le défendre à tout prix, quoi.
Ce soir, les amis d'Orwell sont au téléphone avec Denis. Il est membre fondateur du collectif Halte au contrôle numérique, qui est basé à Saint-Étienne. Ok, donc je rappelle, sur le site, c'est halteaucontrôlenumérique.fr. Est-ce qu'on peut maintenant évoquer avec toi un truc un peu plus actuel, quoique ça traîne depuis pas mal de temps? Là, on retourne en région Rhône-Alpes, mais au sein de l'Assemblée régionale, qui apparemment... tiens, vraiment à se faire remarquer, justement, en matière de vidéosurveillance, je sais pas comment on peut appeler ça, intelligente, algorithmique, oui. Augmentée. Alors, raconte-moi un peu les délires de Laurent Wauquiez, là, dans la région.
Alors, les délires sont déjà un peu anciens de sa part, mais c'est sûr que... Alors bon, d'abord, il a une vraie stratégie de déploiement de la vidéosurveillance, mais en fait, avec un virage organisé vers la reconnaissance faciale.
C'est ça.
Pour l'ensemble des communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec même un habillage qui s'inspire, si vous allez dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans n'importe quelle commune maintenant, vous trouvez des panneaux blancs et bleus, bleu de sa couleur, de son parti, qu'il réutilise lors des campagnes électorales. Et la région vous aide, il n'y a pas sa figure, mais c'est vraiment hyper personnalisé comme type de propagande, quoi.
Tu veux dire, tu rentres dans la ville, le village, et hop, il y a le panneau de la région qui dit « c'est bon ».
À l'entrée, la région a aidé à la création d'une petite salle. Alors qu'en fait, les financements sont toujours croisés.
Exact.
Il y a toujours le département, il y a toujours un financement national, voire européen, mais non. Lui, il s'attribue l'ensemble des trucs. Alors, il fait pareil pour la vidéosurveillance, où, en fait, la plupart des fonds, puisqu'il faut dire sur la vidéosurveillance, c'est que le financement national, par exemple, est de l'ordre de 70 à 80% du prix des caméras.
70-80% du coût total du projet, ça, d'accord. C'est l'État qui prend en charge la grande majorité, quoi.
Voilà. Et lui, il doit mettre une petite obole au titre de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais il s'attribue le financement. Et pareil, on a rencontré des gens dans des réunions qui nous disent « Mais la région nous aide pour installer des caméras. » Alors qu'en fait, c'est un financement essentiellement national. Donc, voilà la trappe-couillon. Et par ailleurs, effectivement, lui a une action particulière pour ce qui est l'équipement des gares et des trains de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, déjà, pour la dernière campagne régionale, il avait annoncé qu'il voulait mettre de la reconnaissance faciale partout, dans ses gares et dans ses trains. Les TER. On avait suivi le truc, quelqu'un qui bossait avec une société de service nous disait que c'était pas quand même très avancé sur ce plan-là, il avait des problèmes techniques, donc il n'y avait pas encore de reconnaissance faciale, mais là, il a profité de la loi JO 2024.
Sur les Jeux Olympiques, oui, exactement.
Donc, par exemple, il a passé un accord avec la SNCF au début juin. Ouais. C'est une convention à signer le 2 juin. Ouais. On a fait un article là-dessus sur notre site.
Oui, exact. Ouais.
Qui va, dans un premier temps, équiper 129 gares de la région avec un système d'analyse qui n'est pas encore de la reconnaissance faciale pleine et entière à la chinoise, mais qui ressemble grandement. Et donc, il reste dans les clous quoi, du texte de loi sur les JO 2024. Mais bon, on y est. Le but est de s'équiper en reconnaissance faciale dans ces gares.
Ouais. D'ailleurs, dans votre article, vous citez donc 129 gares, tu dis, en gros. 129 gares, c'est à peu près la moitié de toutes les gares de la région. Et le nombre de
350.
C'est ça, 350 gares dans la région. Et le nombre de caméras, ouais, 360, c'est ça, à l'intérieur des gares pour l'instant.
Oui, ouais, 360.
C'est dans votre papier, ouais.
Et des gares lyonnaises, hein, uniquement.
Ah, juste les gares autour de la région de Lyon, quoi. Uniquement de la métropole, ouais. D'accord. Et quel rapport entre Lyon et les JO de Paris ?
J'ai passé la loi sur les JO 2024.
Ouais.
Intègre aussi la coupe du monde de rugby de 2023.
Qui commence en septembre, là, effectivement. Et ça concerne aussi...
Et en plus, le texte est extrêmement foireux, c'est-à-dire que il dit que par extension, tout événement qui se passera pendant la période, parce que c'est une expérimentation qui dure jusqu'en juin 2025, je crois.
Oui, ok.
Donc, pendant ce temps-là, tout événement pourrait très bien faire l'objet d'une vidéosurveillance de la même façon, enfin, avec reconnaissance faciale, donc. Mais en fait, ça n'est pas que la zone de Paris qui est concernée, c'est toute la France. Alors, bien sûr, à Saint-Étienne, Lyon, je ne sais pas si Grenoble en main, il y a des trucs qui vont se passer au moment des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde de rugby. Donc, de fait, ils vont en profiter pour là aussi tester tous leurs équipements. Quoi.
Donc, pour l'instant, c'est un peu un effet d'annonce, évidemment, parce qu'il faut bien qu'ils se fassent mousser encore sur ces questions-là. Mais on ne connaît pas grand-chose des systèmes évoqués là, est-ce que c'est de la reconnaissance des visages, est-ce que c'est de la reconnaissance des soi-disant des comportements suspects, tu vois, on sait pas trop là, c'est ça.
Ce qu'il faut dire, c'est que, et nous on insiste beaucoup à chaque fois, c'est que en fait la vidéosurveillance c'est des caméras, mais c'est aussi des systèmes pour les exploiter,
ouais.
Notamment les CSU, centres de supervision urbaine.
Ah ouais, les centres où les opérateurs sont en train de mater les images toute la journée pour faire des rapports.
Voilà, avec des écrans. Et ça, dans beaucoup de villes désormais, on a ce type d'équipement.
Ce type de logiciel qui va analyser en temps réel les images ou après coup, c'est ça?
Alors, présent, la reconnaissance faciale n'était pas autorisée. Mais il y avait déjà des coins où des gens avaient pu identifier que la reconnaissance faciale était clandestinement utilisée. À Nîmes, à Moiron vers Grenoble, où la quadrature du net a d'ailleurs attaqué en justice la mairie. C'est su, déjà, il ne s'agit pas de faire grand-chose pour les faire basculer vers la reconnaissance faciale. Mmh. En fait, c'est une mise à jour technique plus que l'achat de nouveaux matériels. Et donc, ça veut dire que s'ils font... Il y avait déjà clandestinement des coins où la reconnaissance faciale se pratiquait. Là, ils seront autorisés à le faire dans le cadre des JO, de cette loi JO, 2024, mais aussi Coupe du Monde de rugby 2023 et finalement beaucoup d'événements qui pourront sous prétexte de terrorisme ou autre excuse bidon.
Moi, tu veux dire que même en ce moment, ce qui se passe dans toutes les villes de France, là où c'est un peu l'embrasement, il pourrait y avoir effectivement des mesures qui montrent qu'on va généraliser ces systèmes-là dans toutes les situations, quoi.
Voilà. Oui, oui.
Tout est fait, tout est prêt pour...
Et les drones, parallèlement, les drones ont fait l'objet d'une autorisation par un décret récent également, qu'on cite aussi dans notre site. Les drones peuvent être utilisés pour faire de la reconnaissance faciale. Donc, c'est pas un problème technique, c'est un problème légal, avec même des bémols, puisque la légalité est toute relative.
Exactement.
Voilà.
Les amis d'Orwell sont au téléphone avec Denis, membre du collectif Halte au contrôle numérique de Saint-Étienne. Bon, ces expérimentations, hein, qui sous-entend qu'on est quand même tous des cobayes, hein, c'est quand même sympa. Mais ça fait partie aussi des processus d'acceptation, c'est ça, c'est qu'on met les gens en situation en disant « vous inquiétez pas, c'est qu'un test ». Donc c'est soi-disant un test qui est à durée limitée, et finalement on se rend compte que ça reste en place, quoi. Et puis on pérennise petit à petit.
De toute façon, il se trouve qu'à Saint-Étienne, on avait un député qui a été viré depuis, aux dernières élections, Jean-Michel Lemis, MIS. Et ce gars-là avait fait un rapport il y a déjà 3 ans sur les JO 2024. Dont beaucoup de termes ont été repris dans la loi concernée.
D'accord.
Très clairement dans son rapport, il exprimait que il y avait un problème d'acceptation sur la reconnaissance faciale et d'autres technologies numériques, et que il fallait profiter d'un événement et aussi faire des expérimentations qui ne sont pas soumises au même contrôle. C'est par exemple un bon moyen de contourner l'avis de la CNIL, une expérimentation. Et donc, ils préconisaient déjà ça à l'époque. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec cette loi. Ils, justement, fait une expérimentation en temps limité, mais déjà les sénateurs, LR, on fait une proposition de loi très récente elle a été examinée au Sénat le 2 juin, demande la pérennisation de l'utilisation de la reconnaissance faciale.
Ah déjà, tout de suite là maintenant, ok.
C'est leur dispositif. D'abord, ils ont de la compétence puisque ils ont des maires et présidents de région qui sont des promoteurs avisés de ce type de technique. Entre Estrosi, Wauquiez, justement, Pécresse, etc. Et puis, c'est leur façon d'exister actuellement, c'est de doubler par la droite, voire l'extrême droite, leurs amis macroniens, macronistes.
Ok, ça fait du boulot, pour... pas que pour vous, mais ça commence à chauffer, là. Et à ta connaissance, est-ce qu'il y a d'autres régions qui sont mises dans la brèche, là, pour, pour se faire mousser et pour profiter justement de cette expérimentation pour nous balancer des trucs encore plus sécuritaires.
Bah, je pense que l'île de France ne doit pas être loin.
Ouais, c'est vrai. On va quand même pas...
La région PACA, enfin ex-PACA maintenant, c'est Sud, je crois.
Ouais, c'est ça.
Bon, je pense que oui, il y a plusieurs régions qui sont très proches de ces positions. Enfin, ils vont avoir peut-être des terrains d'expérimentation différents, mais ça revient au même, oui. Le projet, c'est bien la généralisation de cette technologie, ouais.
Ok, donc on rappelle, il y a beaucoup de ressources sur le site haltaucontrôlenumérique.fr. Ben écoute, Denis, je te remercie. T'as un petit message encore à faire passer, un petit truc là qui te tient à cœur ou...
Alors, message d'espoir, c'est peut-être un peu compliqué à,
ouais,
à balancer actuellement. Nous, on pense que si, il y a un message d'espoir relatif qui est que actuellement est en débat un IA hack au niveau européen.
Autour de l'intelligence artificielle ou...
Oui, puisque l'idée de l'Union européenne, c'est de faire un règlement. Donc un règlement, c'est applicable tel quel dans tous les pays sans qu'il y ait de temps d'intégration, hein, contrairement à une directive. Donc un IA Act est en débat. Cet IA Act a amené quelques éléments qui liés aux luttes citoyennes, hein. Alors notamment il y a une organisation qui s'appelle l'IDRI,
ouais.
Au niveau européen,
ouais, ouais.
Qui fait un boulot intéressant
qui existe depuis au moins une vingtaine d'années
et, ouais. Ouais, et on ça. A d'ailleurs un article dans le site qui rappelle son activité. Ils ont fêté leurs 20 ans cette année, tout à fait. Et cet EDRI, donc, qui fédère toute une série d'organisations en matière de droit numérique, a noté que la France est plutôt en retard sur ses défenses des droits. Mais par exemple, en Allemagne, où ils ont eu, il faut dire, la Stasi, les nazis, ils sont nettement plus sensibilisés que nous sur ces questions. Et il y a beaucoup d'organisations allemandes qui sont présentes dans les EDRI, il y en a une dizaine, je crois. Alors qu'en France, on n'en a qu'une ou quasiment, la Quadrature du Net. Et donc, ce texte européen, sans verser dans l'optimisme béat, ouvre quand même une brèche dans la mesure où il est dit que certains dispositifs d'intelligence artificielle pourraient être carrément interdits dans certains usages, et notamment l'usage biométrique. Ce qui voudrait dire, d'ailleurs, que la loi JO 2024, qui est la première loi en Europe à promouvoir la reconnaissance faciale de cette façon, pourrait être déclarée ou tout ou partie illégale en rapport avec ce texte européen. Les choses ne sont pas finies parce que, en fait, il y a eu un vote au Parlement européen, donc qui a abouti à ce truc. Je te renvoie à notre site, on détaille les éléments à retenir. Bien sûr, il va y avoir maintenant une négociation avec les États. Et on sait déjà que la France a essayé de jouer du droit d'exception à fond la caisse pour se sortir de ces contraintes entre guillemets vues de leur côté, quoi.
Et donc pour l'instant c'est au niveau européen, c'est ça, au niveau du Parlement, et puis
c'est un texte qui a été donc très récemment approuvé par le Parlement européen. Il y a eu un vote très majoritaire pour cette version là donc qui laisse de côté, il faut le déplorer, tout ce qui est migrants, puisque les migrants sont vraiment les victimes de ces systèmes numériques pour lesquels il y a eu beaucoup de projets financés directement par l'Europe. Bon, par exemple, des détecteurs de mensonges, choses complètement aberrantes, qui ont pu être déployées à leur encontre. Donc les migrants restent victimes même après l'examen de ce texte, mais ce texte peut permettre, je pense qu'il va surtout permettre des batailles à venir, faire en sorte qu'au nom de ce texte, on classe dans les interdits des dispositifs entiers d'intelligence artificielle, et notamment tout ce qui est biométrie. C'est vraiment la bataille à mener dans les années à venir, quoi.
On va donc se quitter. Je rappelle donc altocontrôlenumérique.fr, c'est votre site et votre collectif donc, qui existe depuis quelques années maintenant. Vous êtes basé à Saint-Étienne et donc j'ai compris que vous étiez sur des actions, sur la sensibilisation qui dépasse de loin votre petite ville. Bah, écoute, merci Denis.
Okay.
Merci d'avoir été avec nous. Et puis je relancerai sur le blog de l'émission pas mal de liens vers votre site pour illustrer de ce dont on vient parler. Et bien, à bientôt, salut.
À bientôt.
Halt au contrôle numérique, c'est donc ce collectif dont on vient de parler. Leur site haltaucontrôlenumérique.fr. Nous mettrons, comme d'habitude, sur le nôtre, sourier.info, pas mal de ressources récoltées par les copains du collectif stéphanois. C'était plus court que d'habitude. Les amis d'Orwell, c'est donc fini pour cette fois. Bonne fin de soirée sur Radio Libertaire avec l'émission The Post Non Radio Show. Salut Henrik et bonne soirée.
La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.
Sono le 22:30.
Radio Libertaire, salut, bonsoir. C'est le Post Non Radio Show qui commence comme tous les vendredis soirs, émeute ou pas. Voilà, Salut les gars.
Salut Henrik. Ouais,
bonsoir. Alors.
Bonsoir.
Il y a Serge juste là. Et puis ensuite il y a Di.
En
et
face.
Il y a Yves.
Bonsoir. Et tu nous prends dans le sens frigo là, c'est bien.
Et je vous. Excuse-moi.
Je commence à déconner, excuse-moi.
T'as dit encore un truc qui a trait aux maths.
Ah oui.
Ah, évidemment,
c'est
bien
dans le sens
frigo,
ça cause. Hein. Ça cause.
Évidemment, ouais. Bien sûr. C'est son obsession du moment, il faut l'excuser. Chacun a les siennes. Hein.
C'est la rotation de la Terre.
Hein. Certains, c'est les maths, d'autres, c'est le feu.
Pour un observateur placé au pôle, non.
Voilà.
Oui.
Alors, bonsoir aux quelques auditeurs qui nous écoutent, dont Fabien. Fabien, j'ai ta carte postale précieusement avec moi. Comme un porte-bonheur. Et puis, bonsoir à Philippe également. Voilà, j'engrange les auditeurs, les followers. C'est super. Donc, nous sommes vendredi soir, vous le savez, et c'est l'heure de ce sous-estimé show qui devrait être connu de la France entière et du monde entier. Mais c'est pas grave, le peu d'auditeurs qu'il y a suffit à notre bonheur. Le mec. Non, c'est vrai, j'ai pas envie d'être célèbre. De toute façon, je serais pas à Radio Libertaire. Hein. Ça fait 14 ans que je suis là. Si j'avais une quelconque envie de célébrité. Et voilà, je crois que j'aurais fait une erreur d'aiguillage. Car au bout de 14 ans, j'ai quand même eu une carte postale. Et. et un auditeur qui a été plus que sympathique. Donc, nous voilà, nous nous retrouvons ce soir, j'allais dire comme d'habitude, Serge.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux regarder la télé?
Ah ben, je regarde la télé pour savoir s'ils donnent des nouvelles, s'il y a quelque chose de
conséquent.
Conséquent, éventuellement. Bon, déjà, bon, je peux dire ce qui m'arrive.
Oui.
Normalement, je devais pas être là ce soir.
Alors, oui, dis, ah ouais, ouais.
Et je devais assister au concert de Mylène Farmer.
Oh là.
Ah oui, t'avais dit furax.
Il est
furax.
Ah oui.
On peut le dire, vous faites chier. Il peut pas aller à son concert.
Aïe.
Merde.
Et voilà. Donc.
voilà, les petits bourgeois qui peuvent pas assister au concert de Mylène. Oh là là. Non, bon, c'est vrai. Je dis rien.
Non, on est ni pour ni contre.
Je te taquine.
Ouais.
Donc voilà. Tu voulais, mais j'ai pas compris pourquoi tu voulais mon câble.
Ah oui, non, mais au cas où il y aurait une information importante qu'on retransmette éventuellement un reportage ou quelque chose comme ça.
Quelque chose de gravi. Ah, tu nous prends pour BFM.
C'est jamais. Il faut signaler aux auditeurs, si par hasard ils sont dehors, que les métros s'arrêtent à minuit ce soir et non pas à 2h du matin. Voilà.
Ça,
c'est très important.
Bah, de toute façon, j'ai l'impression que c'est carrément le couvre-feu qui nous pend au nez.
J'ai l'impression aussi.
Ouais. On va se retrouver comme à l'époque du Covid. Les couvre-feux, les passes, tu vois, tout ça, là, tu peux pas passer. Pourquoi je prends cet accent bizarre? Il faut montrer le Ausweis et tout. Non, le passe, machin. Ça nous pend au nez, le couvre-feu. On s'appelle ça comme ça, non, c'est pas le couvre-feu exactement.
C'est l'état d'urgence, tu veux dire.
Ah, l'état d'urgence,
l'état d'urgence.
Oui, mais l'état d'urgence, c'est un couvre-feu.
Ah non, c'est pas la même chose. Couvre-feu,
non, mais dans un état d'urgence, c'est un couvre-feu, je pense.
Oui, c'est ça. Oui. De ce qui est au sommaire de cette émission.
Je ne sais pas, qu'est-ce qui est au sommaire, dis.
Au sommaire qui...
Bah, quand même.
Qu'est-ce qui est au sommaire?
Bah, il se passe des choses quand même, quoi. Le couvre-feu.
Qui nous pend au nez. Ouais, bon, oh, ça fait chier.
Le gouvernement, quoi. Ça n'emmerde pas le couvre-feu.
Mais non, mais nous, ça nous emmerde.
Bah
quoi.
Oui, ils font ça contre nous. Quoi, donc,
Je veux dire, bon, c'est bon, quoi.
Ouais, oui. Ils essayent de dramatiser encore plus le truc.
Non, mais c'est déjà dramatique. Hein.
Bah oui, oui, mais ils en rajoutent.
C'est quand même dramatique. Il y a quand même. Enfin, dramatique, oui. Ouais. Il y a un petit côté. Enfin, bref.
Il y a des choses dans les banlieues depuis des années, ils n'ont jamais rien fait de plus non plus. Hein, donc.
Tu parles de qui? De quoi?
D'ailleurs, dans les banlieues. Voilà.
Il n'y a pas que dans les banlieues qu'il se passe des choses.
Eh ben non, non. Comme je dis, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la
retraite, oui, voilà.
Et maintenant, il y a un problème immense de travail simplement, de poste.
Ben
de,
oui,
de
sortie, c'est pas.
De sortie ouais. Des écoles pour les jeunes.
Sauf que c'est autre chose là.
Là.
Quand il s'agit d'aller. D'envoyer la Bravem, ridicule pour aller taper sur quatre vieux qui manifestent avec des casseroles. Et tabasser du jeune du vieux n'importe comment qui manifeste assez pacifiquement, c'est pas quelques casserolades, et enfin il y a eu des débordements, mais c'était pas. Et là, franchement, là. Enfin bref, quand il s'agit d'aller taper, voilà. Je sais plus, j'ai perdu le fil déjà de ce que je voulais dire. Il y avait une suite à ce que je voulais dire, mais je sais plus laquelle.
Bah oui, bon, on va la retrouver, oui.
Bah, vous m'excuserez, mais bon, voilà, c'est dû à mon état. La fatigue, les médocs pour les douleurs, donc des fois j'ai, voilà, je sais plus ce que je disais, déjà, c'est grave, il est à peine 22h. Oui, je disais c'est facile, hein, et voilà, bon, enfin je sais pas, bon, bref, j'ai complètement perdu le fil. De ma pensée.
Mais c'est pas très grave.
Et des ennemis complètement yaya, quoi.
Non, c'est pas très grand. C'est pas
bon,
très
Yves,
grave,
oui. Yves.
Oui.
On en était où?
Moi, j'ai un article qui m'a beaucoup intéressé sur Mayotte, qui s'intitule Les bisonvilles sont un moindre mal, et qui est un article, évidemment, qui date un peu parce qu'il est du lundi 15 mai. Enfin, quand même. Et. C'est un architecte qui s'appelle Cyril Anapé qui a mené plusieurs projets pour adapter et sécuriser l'habitat insalubre sur l'île. Alors c'est un cofondateur de l'agence Air Architecture. Il est directeur pédagogique avec Pascal Chombard de Lauve du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture risque majeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville.
Donc là, on est déjà dans le dur là. Alors on rentre dans le dur, dans des sujets du fond.
Je vais essayer de résumer l'article, mais c'est assez complexe. Mais il dit qu'il a analysé avec ses étudiants la situation de bidonville dans l'espace et la jungle de Calais. Il a réalisé un certain nombre d'aménagements sur place. Et ce travail l'a conduit jusqu'à Mayotte, où il développe actuellement avec son agence un ensemble de projets. Et donc, lui appelle à la sauvegarde des maisons en tôle et que le gouvernement cherche à démolir dans le cadre de l'opération Wambushu. Je ne sais pas le prononcer, excusez-moi. Et donc, il y a un journaliste qui l'interviewe, qui est Madame Isabelle Régnier. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, il décrit une situation où lui, il voit des choses à faire autour, non pas de détruire ces zones, mais de les rendre plus sûres, disons. On a expliqué au maire, dit-il, qu'il avait intérêt à limiter les risques parce qu'en cas de catastrophe, il serait tenu pour responsable. Donc ils ont mis en place, à certains endroits en tout cas, des petits cheminements en béton suffisamment larges pour que les petits véhicules puissent passer. Cheminements qui servent de barrière coupe-feu, de protection contre les glissements de terrain. Le long des cheminements, on a fait passer des réseaux, l'eau, l'électricité, le tout à l'aigu. Ils ont sécurisé un certain nombre de places publiques. Ils se proposent d'équiper ces structures traditionnelles très répandues dans le Pacifique. Les farés, ce sont des toits sous lesquels les gens se retrouvent, jouent aux dominos, où les enfants viennent faire leurs devoirs. Ils les ont équipés d'un système de volets qu'on peut fermer en cas de cyclone, par exemple. Mais le chantier n'a toujours pas démarré, c'est vrai, parce que ça prend plusieurs mois à cause des exigences des marchés publics à la française. Mais il ne désespère pas. Mais en 2022, par exemple, Oh, je ne veux pas parler de ça tout de suite, mais il explique ce que sont ces populations qui sont dans ces bidonvilles. Il dit que la population des bidonvilles, c'est très lié à celle de la ville, elle est très diverse. Il y a le classique sordide de la femme numéro 2, il y a le Mahorais qui se construit une maison pas chère pour la louer, on croise le vigile de l'hôtel, la serveuse du restaurant, toutes sortes de personnes qu'il faut tourner l'économie, si vous voyez le rapprochement avec la métropole. À Mayotte, les loyers sont très chers. Le taux de pauvreté est complètement dingue, car il y a un manque criant de logements. Il y a environ 1800 logements sociaux en gestation plus ou moins avancée, en comparaison de près de 150 000 personnes qui vivent dans les bidonvilles. Donc le rapport parle de lui-même, quoi, c'est dérisoire. Et donc ils se sont concentrés sur un bidonville à Mahabourini, et ils se sont focalisés sur la question de limitation des risques. Donc, alors, ce qu'ils ont fait, c'est que lui, il considère que ces maisons en tôle que le gouvernement veut détruire, il milite pour les préserver parce que c'est un moindre mal dans la situation actuelle. Il faut évidemment sortir du bidonville, mais on ne peut pas le faire sur le mode de la tabula rasa. Il faut transformer les choses par le bas. Hernando de Soto défend l'idée qu'il faut rendre les gens propriétaires, car une fois propriétaires, ils investissent eux-mêmes dans leur maison. Et à Mayotte, il y a eu des expériences qui allaient dans ce sens, des quartiers entiers où la propriété a été légalisée, où on a vu que des maisons ont été consolidées. Et donc leur démarche aux architectes, dans ce contexte, est très incrémentale. Elle repose sur une idée de conservation et d'amélioration de l'existant. Les gens conservent leur maison et on leur construit une autre à côté. Une fois qu'elle est construite, ils font ce qu'ils veulent. S'ils peuvent détruire la première en tôle ou la garder pour mettre des chèvres. Bon. Et il donne un exemple à Jangua. Il avait imaginé tout un projet urbain. Il avait créé des liens avec les habitants. Ils avaient pensé les choses avec eux. Et puis le préfet est arrivé et il a tout démoli. Donc c'est terrible. Alors, ce qui est remarquable dans cet article, c'est qu'il finit par une analyse à la fin. La journaliste Isabelle Régnier dit « Ces démolitions ont été rendues possibles par la loi évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2008, la loi Elan de 2018. Quand a-t-elle commencé ? Eh bien, avant 2018, il y avait déjà des décasages sauvages, opérations punitives menées par les habitants. La loi Elan a donné un cadre légal aux démolitions. Un cavalier législatif y a été introduit qui donne le droit aux préfets, à Mayotte et en Guyane, de raser les quartiers insalubres sans passer par un jugement. 2018. Cette autorisation est conditionnée à la possibilité d'offrir un minimum d'hébergement aux personnes concernées. Mais il n'y a pas de logement disponible à Mayotte et peu de solutions d'hébergement. L'hébergement, de toute façon, c'est 21 jours renouvelables une fois. Donc c'est une catastrophe pour les familles. Et la dynamique qui s'est mise en place en 2018 a pris son essor en 2021-2022. Et à ce moment-là, on a vraiment commencé à détruire du bidonville, des milliers de maisons à la fois. Et comme il n'y a pas d'offre de logement, ça n'a fait que régénérer du bidonville. Et concomitamment, l'insécurité a augmenté en flèche. C'est selon son plein à la télévision, évidemment. Il est très dangereux de sortir aujourd'hui après 18h à Mayotte. Voilà. Et donc, le lien entre les démolitions et cette hausse de l'insécurité, il y a plein de gens qui se sont retrouvés dans une misère totale. Et les enfants dont les parents ont été expulsés, il y a des villages d'enfants actuellement à Mayotte qui vivent entre eux dans des conditions épouvantables et qui les poussent à toutes les extrémités pour survivre. Donc, une violence auquel aurait pu répondre l'architecture, disons. Apparemment, on est dans un régime pour lequel ce genre de propos ne compte pas.
C'est fini ?
J'ai fini.
J'ai
fini à peu près. Oui, c'est à peu près ce que je veux dire.
N'oublie pas que la radio, les silences, c'est ce qu'on peut faire de silence.
J'ai vraiment piraté l'article de Madame Isabelle Régnier, qui est très intéressant. Il y a une photo qui montre un bidonville, qui, ma foi, il est ce qu'il est, disons. Ça montre une sorte de talus sur lequel sont montées des baraques en tôle. Évidemment, c'est pas l'idéal. Mais les architectes, ils ont toujours des idées. Faut faire attention à la formation des gens. C'est des gens qui ont des idées qui qui tiennent compte du réel pour le transformer. Et donc cet avis de l'architecte, il m'a hyper intéressé parce que il n'est pas brutal, contrairement à notre action, puisque c'est mon état qui traite les gens de cette façon. Donc je suis bien obligé de me sentir concerné et impliqué dans cette action. Et je préfère la vision de l'architecte, disons, à celle de celui qui nous sert de ministre de l'Intérieur, j'ai nommé M. Darmanin.
Ok, donc toi, pour régler le problème à Mayotte, tu aurais envoyé...
Moi, j'aurais commencé par ne pas faire cette loi Elan, qui est avec un cavalier législatif, comme quoi on n'ose pas dire les choses nettement, pourquoi on va les faire. Et ensuite, deux ans après, on se rend compte à quoi ça sert, à savoir donner un cadre légal à des démolitions, sans l'accord de la justice. Donc, c'est vraiment pratique, quoi.
Je sais plus.
C'est un peu comme j'entendais M. François Bayrou hier à la télévision dire, mais à propos des autoroutes, puisque c'est un petit problème actuellement, mais les autoroutes étaient un bien public, et normalement, quand quelque chose appartient à l'État, il faut une loi pour...
Oh, ça va, de quoi il parle celui-là, parce qu'il a
il faut une loi pour
il a dû y participer
pour
le
faire passer au privé. Alors, c'est pas tout à fait...
Il a dû y participer au bradage, alors, Bayrou, alors ça va. Hein.
Attends, on n'a pas...
Ils viennent maintenant pleurnicher, pleurnicher. Oh, qu'est-ce qu'on a fait, c'était pas bien.
Non, mais il était opposé depuis le début.
Est-ce que c'est sûr? Parce que je me méfie.
Oui, je suis sûr. Il était opposé. C'est un de ceux qui était opposé. Il l'a dit, répété. Et maintenant, est-ce qu'on a fait passer au privé? Pas exactement, puisque c'est des concessions. Mais qui a trouvé cette idée de concession? Les membres du gouvernement qui n'ont pas voulu appliquer les textes qui régissent les propriétés de l'État. Et donc, ils ont trouvé un petit truc, disons, un petit truc...
Et tu peux nous rappeler ce que c'est que la loi Elan?
Ben non, justement.
Parce que je vois pas du tout. Donc toi, tu aurais envoyé une...
C'est la loi de l'aménagement et du numérique.
Ben, qu'est-ce que c'est ça?
Attends, c'est la loi de l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Ils pondent les lois qui font 200 pages. Enfin, j'exagère à peine, mais... Et donc, dans cette loi, comme j'ai expliqué à l'instant, il faut écouter, hein, la loi Elan a donné un cadre légal aux démolitions. C'est un cavalier législatif qui a été introduit, qui donne le droit aux préfets à Mayotte et en Guyane de raser les quartiers insalubres. Je ne sais pas ce que ça fait dans cette loi. Il parle de cavalier législatif. Apparemment, le Conseil constitutionnel, soit ne s'est pas prononcé, soit n'a pas vu de problème. Peut-être qu'il n'y en a pas, très bien. Donc, okay. L'autorisation est conditionnée à la possibilité d'offrir au minimum un hébergement aux personnes concernées. Donc, nous leur offrons. Le problème, c'est qu'on leur offre pendant 21 jours.
Fois deux.
Renouvelable une fois.
Et donc, la prochaine fois, on envoie plein d'architectes.
Mais c'est pas plein d'architectes. C'est, on fait les choses progressivement, avec des crédits, avec... mais ce qui m'épate, c'est que les gens qu'on voit à la télévision sont pour certains extrêmement contents de ce qui se passe, ceux qui habitent là-bas. Bon, alors, on n'interroge peut-être pas toutes les couches de la population.
Ok. Ok, ok. Musique.
On a une télévision qui me semble partiale.
Samedi soir, chère et pourtant qu'il fait chaud. Le groupe a commencé, c'est pas vraiment nouveau. Mais sans se faire prier, le mec qui va prendre, il chante.
Vous vous dites que ce texte est terriblement daté. Vous vous dites que ça ressemble à vraiment à du vieux rock'n'roll. Et ben vous avez raison. C'est terriblement daté puisque ça a 40 ans. Ça date des années 80.
C'est ça ressemble à Bijou.
Mais c'est le groupe Bijou. Alors, je ne sais plus du tout pourquoi j'ai choisi ce titre. Je dois avouer que là, je ne sais plus. Je le trouve complètement quelconque. Mais c'était... ça fait suite à une émission qui avait eu lieu en l'automne dernier, qui était toute une série de alors c'est une séance, c'est une session vinyle aujourd'hui. Vous aurez entendu les craquements. Qui fait suite à une autre session vinyle de l'automne dernier qui a été composée de disques 45 et 33... des années 80-90, et je me suis dit que j'allais finir la session plus ou moins. À l'époque, j'avais choisi un tas de disques que j'avais acheté à droite à gauche dans des brocantes. Alors je sais pas, Yves, si tu te rappelles, celui-ci c'était en Bretagne, si tu te souviens, c'était à Saint-Malo, je crois. Il me semble que c'était à Saint-Malo, je crois, je sais plus, à vrai dire. Ce qui est bien, j'ai complètement perdu la mémoire.
Il faut que je retienne l'endroit où tu achètes des disques dont je ne vois pas la couleur de la pochette.
Non, c'est pas la peine, laisse tomber.
Je ne peux pas écouter.
Et donc là, c'est la suite, plus ou moins, de cette session donc, qui est composée de vieilleries, de croûteries, de croûtes des années. Alors il y a des trucs bien, il hein, y a des croûtes. Hein. Alors là, c'est une croûte. Hein. Je bijoue. J'aurais pu choisir la face B, je l'ai choisi aussi, je sais pas ce que ça a donné. Je l'ai pas réécouté depuis, donc peut-être que je l'aurais dégagé de la session, j'en sais rien. Ah ouais.
En tout cas, la chanson, ouais. je la connaissais pas. Moi, je connais OK Carole, par exemple. J'étais le fils du Père Noël et
ah, celle-là, je la connais.
Voilà, j'étais le fils du Père Fétoire, elle était la fille du Père Noël. Je sais pas comment ça s'appelait.
Enfin, c'est Dutronc qui chantait ça.
C'est Dutronc qui chantait ça. Ah ouais,
Yves.
Oui.
Oui, Serge, dis pas, continue.
Je disais simplement que Bijou a repris la chanson de Jacques Dutronc.
Voilà, je le montre à la caméra.
Oui.
C'est un oui un peu. T'as l'air de
même Dutronc, il est encore là à ce moment-là parce qu'il n'y a plus rien à cette époque, là, 80. Allez,
voilà, donc, voilà.
C'est les années plates. Hein, ouais.
Les années plates, je t'en foutrais
si,
des années plates.
Pleurait de la musique hein, à cette époque-là. Ouais.
Je t'en foutrais des années plates.
La preuve, c'est que Dutronc, il est encore là. Et... Bon.
Mais Dutronc est encore là encore.
Oui.
Ok, d'accord.
Il n'a pas fait d'effort pour chanter. Ça marchait.
Bon, la prochaine fois, je ramènerai un disque de Dutronc.
Si tu veux. Voilà. J'ai écouté aussi. Hein.
Ouais, pour te faire plaisir.
Il n'y a rien d'autre. Ouais.
Donc voilà, session ce soir de vieillerie. Voilà.
Tes disques en Bretagne, c'est des disques en granit. Hein. Non, c'est.
Non, je vois. Donc ça fait partie de là. Ça fait partie des vinyles, des sessions vinyles.
Oui.
Celle-ci est axée vieillerie. Il y en aura d'autres tout au long de cette émission. J'y arrive pas ce soir, bordel.
Très bien.
Oui. Moi, je voudrais apprendre un mot sur Mayotte.
Et attends deux secondes, j'ai pas fini. Et si j'ai fini en fait. Voilà. Donc, tout comme il y aura des sessions, parce que plus ou moins, ça sera plus ou moins repris au fil du temps dans d'autres sessions vinyle, si ça correspond plus ou moins au style des autres disques, parce qu'il y en a quand même pas mal encore ce soir à écouter.
Ah oui.
Je sais pas jusqu'où on ira, puisqu'apparemment il n'y a plus de métro à partir de minuit, nous dit-on. N'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Je confirme.
On a notre correspondant BFM qui est là.
Ouais.
Donc, ouais, ok. Alors,
l'opération Wambou Chouchou, là, Chouchoubou.
Oui.
Je sais pas quoi, Chouchou.
Madame voilà, ouais. Isabelle Régnier...
Je devrais pas rigoler de ces choses-là.
Dans le mot du 15 mai, donc, elle...
Faut m'excuser, je suis drouillé.
Elle demande à Cyril Hanappé, qui est architecte, qu'est-ce qui l'a conduit à Mayotte. Et il dit en 2015...
Il faisait beau, alors j'y suis allé.
Non.
Moi, je suis bête.
En 2015, il avait publié une tribune sur les bidonvilles dans Libération. Les gens de la mairie de Mamoudzou l'ont lu. Ils réfléchissaient à la manière dont ils pouvaient traiter les bidonvilles du village de Kaweni dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain et ils m'ont appelé pour me demander une étude. Kaweni, c'est une cité annexe de Mamoudzou. C'est le poumon économique de l'île qui génère un tiers de PIB et qui abrite tout à la fois les grands bidonvilles de France et même d'Europe. Les plus grands bidonvilles de France et même d'Europe. Et voilà. Et donc c'est un poumon économique. Et le bidonville, il participe à ce poumon économique. J'ai cité tout à l'heure le vigile de l'hôtel, la serveuse du restaurant, la deuxième femme du Mahorais, etc. Bon. Bon, donc 2015, c'est trois ans avant 2018, où il y a ce cavalier législatif qui permet les démolitions. Autrement dit, ça coupe complètement le travail qui est en train d'être fait, d'une part par les élus et d'autre part par cet architecte. Moi, je trouve ça vraiment dommage d'employer la force là où il y a des solutions qui sont autre chose.
On entend des animaux qu'on pourrait trouver en Guyane, d'ailleurs, il me semble.
Je ne l'ai pas fait exprès. On sait pas.
C'est très
tout.
Sympathique, ça change effectivement de la vague de mer.
Ouais, de la vague. En fait, j'ai pas du tout fait exprès. C'est un disque Nature et Découverte.
D'accord.
Qui s'appelle sobrement Jungle.
Mm-hmm.
Et c'est la jungle américaine qui s'étend du Mexique à l'Argentine.
D'accord, bon, on n'est pas loin de la Guyane quand même, en fait.
Oui, c'est inclus.
Ah, d'accord.
Puisque le Mexique, c'est juste en dessous des États-Unis.
Oui.
Et ça va jusqu'au bout de l'Amérique du Sud.
Voilà.
C'est-à-dire l'Argentine, qui est quasiment le dernier pays, là, à la pointe, en bas avec le Chili.
La terre de feu.
Voilà. Donc c'est l'une des dernières grandes forêts primaires de la forêt, de la planète, pardon. Alors, faudrait arrêter de dire ça, parce que des forêts primaires, il y en a quand même beaucoup. Il y en a, donc là dans cette zone, il y en a également en haut, vers le nord des États-Unis, le Canada. Il y en a dans le nord de l'Europe, en Scandinavie. Il y en a en Russie aussi. Donc voilà.
Japon.
Je sais pas, il y a quand même les spécialistes experts donc, qui avaient appelé la radio pour nous dire « Vous dites n'importe quoi ». Donc je disais, c'est l'une des grandes forêts primaires de la planète. Le beau temps du matin, vite étouffant, tourne à l'orage l'après-midi. Presque tous les jours, il pleut une eau chaude qui arrose une végétation luxuriante d'une incroyable diversité. Le taux d'humidité est proche des 100%. Ah, je ne supporte pas. Ah, c'est pas moi qui irai. Hein. Ça, je peux vous le dire. En plus, c'est mauvais pour les poumons. Tu me diras, là-bas, ils doivent se dire, ah, celui-là, on n'en veut pas, on s'en fout. Et seulement quelques rayons de soleil atteignent le sol. Les oiseaux de la jungle sont difficiles à observer. Ils se concentrent au sommet des arbres, dans la zone ensoleillée appelée canopée, où mûrissent les graines et les fruits. Leur chant compose des concerts parmi les plus sauvages du monde. Voilà.
Oh, c'est beau.
Allez, je vais vous en mettre de la sauvagerie.
Non, mais c'est bien. Allons-y.
C'est très bien. I feel she's keeping on and smoking.
devil's shoe. Make me sick just looking at it. Jump and jump or get away. Beside there was nothing to do. Someone tell me I am wrong. Wake up yourself, the wit of the world. Tired of the same old shell.
There's no yellow, where to go? There's no yellow, I don't know. There's no yellow, who's to break? There's no yellow, I don't understand.
Looks like we got no to go. Check, we got so much to do. Search for ways, but none is found. We are only fooling ourselves. We need Shakespeare to stop in you. This damn luck is getting to me. Looks like we got no to go. Check, we got so much to do.
There's no yellow, where to go? There's no yellow, I don't know. There's no yellow, who's to blame? There's no yellow, I don't understand.
Wake up yourself, don't wake up the world. Tired of the same old show. Make me sick just looking at it. Times when you just want to get away. Wake up yourself, don't wake up the world. Tired of the same old show. Make me sick just looking at it. Times when you just want to get away.
Radio Libertaire 89.4, le poste non-radio show.
C'est beau le craquement des disques dans la jungle.
Ah ouais, tu trouves? Ah, le rire. Ah. Alors, non mais c'était pas ça que je voulais écouter. Je vais chercher le morceau parce que je crois que je me suis trompé, mais allez-y.
Ah bah, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, malheureusement. Donc voilà.
C'est-à-dire?
Bah, moi j'ai dit ce qu'il fallait dire, en tout cas. Qu'on vous rappelle que les métros s'arrêtent à minuit, en tout cas, les mêmes horaires qu'en semaine, en tout cas.
Est-ce qu'ils interdisent la marche sur les trottoirs, ou c'est encore possible? Ou sur la chaussée, s'il y a peu de voitures, on peut marcher? On a le droit de marcher?
C'était la phase 2 que je voulais mettre.
Ah.
Oh.
Ah ben écoute, tu vas nous la mettre. Hein?
Bien profond. Prends. Oh pardon.
Oh, temps, tu... Il suffit simplement de retourner le disque et c'est bon.
C'est du n'importe quoi là. Non mais sérieusement.
Non, quand même.
Non mais sérieusement. On se tient un peu là. Alors, Radio Libertaire, donc je disais, c'est le Post Non Radio Show. Il est 22h30 et personne n'a rien à dire.
Comment ça?
J'ai 3 chroniqueurs et vous n'êtes pas foutu de fournir des sujets.
Comment ça?
Ah, moi j'ai
un truc sur l'eau potable, sur la gestion de l'eau, sur...
Toi, t'es bloqué parce que tu vas pas voir Mylène.
Oui, mais je pouvais pas prévoir que j'allais
oh
être là.
Ça, c'est dramatique.
Voilà.
Ça,
ouais. Ouais, en plus,
j'ai un truc extraordinaire sur le
il
travail.
Il attend que la télé...
Je peux donner mon avis éventuellement sur l'affaire, hein, éventuellement.
Non, vaut mieux pas.
Bon, d'accord.
Sur quelle affaire?
Bah, sur justement tous ces événements.
En plus, elle s'était habillée spécialement, Mylène. Ah ouais.
On ne sait pas comment elle est habillée.
Ah bah si, elle a une tradition quand même, non?
Non.
Non,
non, pas du tout.
Ah bon, je croyais, moi, j'avais entendu
pas du
ça,
tout.
Mais... Ouais.
Non. Ben bon, je pense que ça va être reporté. Donc voilà. Donc, puisque tu ne veux pas savoir mon avis sur la situation actuelle, ben c'est pas très grave.
Ben, j'ai peur qu'on dise...
Des bêtises.
Des trucs à côté, des bêtises.
Mm-hmm.
Enfin, oui. Voilà, quoi.
Oui, je suis d'accord. Moi, c'est juste qu'on ne m'interdise pas de marcher pour rentrer chez moi, ça va.
Qu'on ne m'interdise pas de prendre un taxi.
Oui,
non
oui,
plus.
Oui, oui.
En espérant que les taxis veuillent bien me ramener.
Oui, mais vous avez eu cette information où et quand?
Quand ça? C'est-à-dire
pas... Le métro.
Alors c'est,
ouais, tout ça, c'est quand?
Le
ça,
métro, c'est simplement BFM Paris-Île-de-France.
Ah. Comme quoi, BFM Paris, Île-de-France.
Comme quoi, ça serait quand même utile qu'on ait chacun une puce implantée dans le cerveau pour avoir les communications du gouvernement en temps réel.
Pour le métro, BFM Paris, Île-de-France. Ah,
ça va venir.
Pour Mylène Farmer, bon, BFM TV et BFM Paris, Île-de-France aussi. Bah,
heureusement que ça sert à quelque chose, BFM Paris, Île-de-France.
Voilà.
Oh, ça, bah voilà.
Ça serait bien quand on est à la campagne et si on a une puce dans le cerveau que d'un seul coup on sache que le métro fonctionne pas quoi.
Je ne me ferai jamais implanter une puce dans le cerveau.
Ça occupe quoi.
Franchement,
c'est du n'importe quoi.
Déjà, j'aime pas les tatouages donc.
Oh là là.
Les chats sauvages. Ah, les tatouages. Ah oui.
Des chats sauvages, oui. C'est dans les années 60, ça, les chats sauvages.
Bon, je crois que c'était des gens qui étaient dans mon lycée, il me semble. J'ai jamais vérifié, mais il me semble.
C'est vrai.
Ah, voilà. Non, c'est les chaussettes noires.
Ah,
les chaussettes noires.
Eddie Mitchell, alors. Chaussettes noires, voilà. Et Eddie Mitchell, ouais, tout à fait.
Et puis il y avait, comment il s'appelle?
Tu sais pourquoi il s'appelait les chaussettes noires, hein, bien sûr.
Celui aux chemises à fleurs, là.
Ah ben, Antoine.
Antoine, voilà.
Avec eux, non?
Antonio.
Antoine.
Et il y avait Antonio.
Antoine, il arrive en 68 seulement.
Oui.
Est-ce qu'il arrive en 68?